Et ce soir, c'est Mathieu Laurent qui présente le journal. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Camille et bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, l'hommage aux six humanitaires français abattus au sud-ouest du Niger. Les ONG attendaient du gouvernement de la considération et des moyens pour poursuivre leur mission en terre hostile. L'appel à manifester pacifiquement ce week-end dans toute la Biélorussie lancé par la candidate de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaya, réfugiée en Lituanie. Et puis le décryptage de l'accord de normalisation des relations entre Israël et les Émirats Arabes Unis par le professeur émérite des universités et spécialiste du Moyen-Orient, Jean-Paul Chagnolleau. Selon une délégation d'enquêteurs qui sera de retour en France demain, l'attaque qui a coûté la vie à six humanitaires ainsi qu'à leurs deux accompagnateurs nigériens le 9 août dernier dans le sud-ouest du Niger paraît avoir été préméditée avec pour objectif de cibler des Occidentaux. Leurs corps ont été rapatriés aujourd'hui. Le Premier ministre leur a rendu hommage au pavillon d'honneur de l'aéroport d'Orly, non sans assurer les ONG du soutien du gouvernement. Sarah Tuchterer.
Jeunes, brillants et engagés, voilà esquissé en quelques mots le portrait des six victimes françaises de l'attaque de dimanche dernier, dressé par Jean Castex dans son discours d'hommage. Le Premier ministre insiste, ça n'était pas des touristes en week-end, mais des humanitaires au travail.
Ils étaient venus au Niger apporter leur soutien à l'association ACTED et à Impact, qui font sur place un travail absolument remarquable, dans le seul but de venir en aide à ceux que la violence, les déplacements de populations forcées, les catastrophes naturelles ou la pauvreté endémique privent de tout.
Mission risquée, mission essentielle, poursuit le Premier ministre.
Quitter le terrain, ce serait abandonner aux assassins et à leur idéologie de mort des populations entières qu'ils gouverneront par la faim, la peur et le désespoir.
Jean Castex qui promet que la France poursuivra son action pour renforcer la protection des organisations sur le terrain et pour consolider le droit humanitaire international. L'ONG ACTED, elle, a provisoirement suspendu son action au Niger.
Et les obsèques de Boubacar Garba Soulaye, employé d'ACTED et chauffeur, et de Kadri Abdou Gamacha, président de l'association des guides des girafes du parc de Kouré, se sont également déroulées aujourd'hui au Niger. Le programme alimentaire mondial va renforcer ses opérations République démocratique du Congo, où des millions de personnes sont désormais confrontées à une grave insécurité alimentaire. La RDC, la deuxième urgence alimentaire au monde derrière le Yémen, affirme une porte-parole du PAM. Environ 15,6 millions de personnes sont considérées en insécurité alimentaire grave et 3,4 millions d'enfants sont considérés, eux, comme souffrant de malnutrition aiguë. Agenda chargé que celui des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne réunis cet après-midi à Bruxelles avec entre autres urgences celle qui consiste à envisager des sanctions contre le pouvoir biélorusse et son autocrate Alexandre Loukachenko. Et pour ce faire, il faut que les dites sanctions fassent l'unanimité. Autre préoccupation, le bras de fer gréco-turc au large des côtes méditerranéennes. Les précisions à Bruxelles de Jérémy Audouard.
Le sujet le plus sensible, c'est celui de la Méditerranée orientale. Ces tensions impliquent d'un côté la Grèce et Chypre, soutenues par la France avec ses deux avions Rafale et ses deux navires de guerre. Et puis de l'autre, on trouve la Turquie qui accuse ses adversaires de pousser à l'escalade. Hier, le ministre turc des Affaires étrangères a d'ailleurs conversé par téléphone avec ses homologues hongrois, lituaniens et bulgares. Un moyen pour Ankara de peser dans les discussions de cet après-midi et d'essayer de fragiliser la recherche de consensus entre les 27. Les ministres européens ont pour but de calmer le jeu entre Grecs et Turcs, pourtant alliés au sein de l'OTAN. L'autre grand dossier, c'est la réélection controversée d'Alexandre Loukachenko en Biélorussie. Les 27 estiment que le scrutin n'était pas démocratique et ils dénoncent aussi la répression qui frappe les opposants. L'Union européenne réfléchirait donc à des sanctions contre les responsables des violences. Mais alors le risque, ce serait que la Biélorussie se tourne complètement vers la Russie. Une partie des pays d'Europe de l'Est souhaiterait une alternative, une solution diplomatique. La Pologne voudrait jouer le rôle de médiateur entre le pouvoir biélorusse et les opposants. La réunion se tenant en visioconférence, a priori les ministres ne peuvent pas prendre de décision formelle. Il faudra donc attendre les résultats des travaux des commissions chargées d'étudier des solutions.
Les autorités biélorusses usent et abusent, et elles excellent à ce chapitre d'injonctions contradictoires. Cas d'école, le vice-ministre de l'Intérieur dément tout mauvais traitement. Quand son supérieur, le ministre de l'Intérieur, présente ses excuses publiques pour le comportement des forces de l'ordre, Minsk prétend avoir libéré plus de 2000 manifestants. Des postures, celles d'un pouvoir, confronté à de multiples débrayages dans quantité d'usines. La candidate de l'opposition Svetlana Tikhanovskaya, elle, appelle à des mobilisations pacifique ce week-end dans tout le pays. Nathalie Hernandez a pu la joindre en Lituanie, où elle a fui dimanche dernier. Svetlana Tikhanovskaya.
Il y a encore 6 mois, personne ne croyait les Biélorusses capables de s'unir et de dire non à l'ancien pouvoir. Mais c'est arrivé, nous sommes allés voter et nous avons fait notre choix, légalement, pacifiquement et dignement. Là où les commissions ont compté les votes honnêtement, j'ai emporté entre 60 et 70% des voix. Mais le pouvoir a transformé les manifestations pacifiques des citoyens en affrontements sanglants. J'appelle le pouvoir à cesser les violences et à accepter le dialogue. Je demande à tous les maires, le 15 et le 16 août, d'organiser des rassemblements pacifiques et massifs dans chaque ville. S'il vous plaît, ne restez pas passifs, nos voix doivent être entendues.
Au nord de l'Irak, en terre kurde, encore et toujours des bombardements turcs. 3 combattants du Parti des Travailleurs ont été tués à bord de leur véhicule dans le village de Rachensky, dans la province de Douk. En fin de matinée, le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, a contacté ses homologues bahreïni, émirati, après s'être entretenu hier avec ses homologues égyptiens, jordaniens, saoudiens et koweïtiens, ainsi que le patron de la Ligue arabe, et plaidé pour, je cite, « une position unie obligeant la Turquie » à retirer ses forces infiltrées en territoire irakien. Un autre enjeu mobilise le Moyen-Orient, l'accord de normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël sous le haut patronage des États-Unis. Relevons que Riyad n'a pas encore réagi, que l'autorité palestinienne demande une réunion d'urgence à la Ligue arabe et que le Premier ministre israélien plastronne et martèle qu'il s'agit, je cite, d'un accord de paix et non d'un slogan. Fin de citation. Comme convenu, nous sommes en ligne avec Jean-Paul Chagnolot. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Professeur émérite des universités, président de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études méditerranée et Moyen-Orient. Jean-Paul Chagnolot, est-ce un accord de paix, comme l'a déclaré Benjamin Netanyahou?
Écoutez, la paix implique qu'il y ait la guerre. Or, il n'y avait pas la guerre entre ces deux États. Mais bien entendu, c'est un accord de normalisation, en tout cas une perspective de normalisation qui est importante pour le Moyen-Orient. Mais en même temps, il faut bien voir à quel coût cela se fait, et en particulier pour la Ligue arabe et le monde arabe, puisque les Émiratis n'ont posé à Israël, on y reviendra peut-être, aucune condition, et en particulier ne sont en aucune façon référés à ce qu'était le plan de paix de la Ligue arabe qui date de 2002 et qui était une proposition de deal à Israël qui était tout à fait important, qui consistait à dire que les États arabes reconnaîtraient l'État d'Israël. En contrepartie, il faudrait que l'État d'Israël accepte, selon les résolutions des Nations Unies, un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale à côté de l'État d'Israël. Donc ça, c'était un vrai échange, un équilibre. Et là, on est évidemment très loin de tout ça. Et ce plan semble en partie déchiré par l'initiative unilatérale d'Abu Dhabi.
Alors, sans tarder justement, poursuivons sur la politique israélienne intérieure. C'est un effet d'aubaine, faut pas le dire comme ceci, mais c'est inespéré en quelque sorte pour Monsieur Netanyahou d'avoir ce genre de texte au moment où il était en passe de ne pas tenir une de ses promesses, et non des moindres.
C'est vrai qu'il voulait absolument annexer une partie de la Cisjordanie en s'appuyant sur le plan Trump qui date du mois de janvier. Et donc, on se souvient qu'au mois de juin, il y a eu une levée de boucliers à peu près partout dans le monde, à commencer par les Nations Unies ou les Européens. Et puis récemment, ce sont même les Américains qui ont dit à Netanyahou de ne pas annexer. Donc, il était évidemment dans une situation difficile sur le plan interne, puisqu'il avait promis cette annexion, qui aurait été assez dramatique pour les Palestiniens, évidemment. Et en même temps, aujourd'hui, il ne peut plus le faire. Donc, il était coincé à une sorte d'impasse politique dont il sort par cet accord très inattendu, ça a surpris beaucoup de monde, et qui fait qu'il peut dire, bon, il n'y a pas d'annexion, mais j'ai un accord avec un État arabe, et évidemment, c'est apprécié très largement en Israël.
Jean-Paul Chagnolot, est-ce qu'il n'est pas question d'une stratégie que l'on pourrait dérouler comme telle, faire la paix avec les pays arabes, et plus du tout en passant par les Palestiniens? C'est ce qu'Israël
avait. Vous savez, ça, c'est dans l'histoire longue du conflit israélo-arabe, israélo-palestinien, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que les États arabes ont toujours privilégié leurs intérêts nationaux, à commencer par l'Égypte en 1979, et puis on pourrait donner plein d'autres exemples. Donc là, on a un cas de figure qui est classique, c'est-à-dire qu'un État arabe privilégie ses intérêts nationaux, et en particulier ses intérêts sécuritaires, dans une alliance avec Israël et les États-Unis face à l'Iran. Donc on est dans un schéma très classique, sauf que cette fois-ci, en plus du fait que ça soit une initiative unilatérale, eh bien ça déchire le plan de paix arabe, qui se retrouve donc en très grande difficulté, ce plan et ceux qui le portaient. Et par conséquent, les moyens de véritablement négocier face à Israël un règlement global du conflit israélo-palestinien. Donc là, on recule beaucoup par rapport à une possibilité d'un règlement qui était déjà, comme chacun le sait, extrêmement en difficulté.
Bien, merci beaucoup. Merci Jean-Paul Chagnolot d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur émérite des universités et président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Il est 18h11, vous écoutez le journal de France Culture. Quel repreneur pour le journal La Marseillaise. Les prétendants avaient jusqu'aujourd'hui 18h pour faire acte de candidature. Le journal fondé pendant la Résistance, marqué à gauche depuis sa création par le Parti communiste en 1943, on le sait, est en difficulté. Le 13 juillet dernier, les fédérés, sa société éditrice, a été placée en liquidation judiciaire. Une offre de reprise par le journal La Provence, dont l'actionnaire majoritaire est Bernard Tapie. Et donc Xavier Niel détient une petite partie, 11%, un temps était envisagé. Bonsoir Fiona Bogadam.
Bonsoir.
Fiona, une certitude, cette offre n'a pas été maintenue.
Effectivement, La Provence dit avoir étudié cette possibilité d'offre de reprise de La Marseillaise, mais finalement renoncé. Notre intention n'a jamais été d'être des prédateurs ou de proposer une offre hostile, se défend même le PDG du groupe Jean-Christophe Serfati dans un communiqué, mais il admet qu'il n'était pas possible de préserver la totalité des emplois. Pour les salariés de La Marseillaise, c'est une satisfaction. Ils attendent désormais beaucoup de l'offre de reprise du média local Maritima. Elle a été déposée devant le tribunal de Marseille, de commerce de Marseille en début d'après-midi et elle doit permettre de conserver la zone de diffusion du journal Bouches-du-Rhône, Var, Gare et Hérault et de maintenir la ligne éditoriale à laquelle les salariés sont très attachés. Émilie Parente est déléguée syndicale CGT à La Marseillaise.
Nous avons une ligne éditoriale atypique si on compare un peu à la majorité des titres aujourd'hui de PQR. Il y a un titre qui parle de transformation sociale, qui est ancré à gauche, c'est notre richesse. Et donc il y a pour les habitants de ces départements une offre plurielle d'informations. Malheureusement, dans beaucoup de régions, il n'y a plus qu'un seul titre. Et on trouve ça très dommage. Et effectivement, pour nous, c'est vraiment la priorité, avec évidemment la préservation des emplois.
Les emplois qui devraient être en majorité conservés avec quelques ajustements d'après cette offre. On ne sait pas encore si d'autres offres ont été déposées. Le tribunal les étudiera ou l'étudiera le 22 septembre prochain.
Merci à vous Fiona Bogadam. Venons-en à une pièce de choix qui vient étoffer la communication d'un justiciable de premier plan, un best-seller, commis par un ancien chef d'État, Le Temps des Tempêtes, signé Nicolas Sarkozy. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Sophie, ce n'est pas le premier président de la République à enregistrer d'excellentes ventes en librairie.
Mais cette fois, c'est quand même une place de numéro 1 des ventes que l'ancien chef de l'État est parvenu à atteindre avec 215 000 exemplaires déjà écoulés sur les 250 000 publiés le 24 juillet dernier. Mais effectivement, les mémoires des anciens présidents font souvent recette, souligne Arnaud Mercier, professeur en communication à l'Institut français de presse.
Peut-être que c'est un peu plus fort, mais enfin Jacques Chirac avait très très bien vendu ses souvenirs. François Hollande a vendu à plus de 150 000 exemplaires son expérience du pouvoir. Les Français ont une vraie passion pour les livres politiques et notamment les livres de témoignages des plus hautes personnalités, de l'envers du décor, où il y a un peu de jeu de la vérité quelque part, même s'il est toujours un petit peu factice. Et puis ça signifie une deuxième chose, ça signifie que Nicolas Sarkozy continue à faire recette dans une partie des électeurs de droite, notamment les personnes âgées, qui étaient la base de son électorat et qui sont de gros lecteurs.
Ce n'est pas pour préparer un retour en politique, répète Nicolas Sarkozy, notamment lors de son interview aux 20h de TF1 fin juillet. Car la priorité à l'agenda de l'ancien président est avant tout son procès pour corruption en octobre prochain, rappelle Arnaud Mercier.
Dans un contexte où son image est en partie dégradée et le sera sans doute plus encore puisque l'actualité judiciaire va le rattraper avec différentes histoires qui sont accrochées à lui depuis déjà un petit moment, mais maintenant le temps de la justice va passer. Je pense qu'il préfère prendre les devants et essayer d'ancrer dans l'opinion l'image d'une certaine forme de nostalgie par rapport à ce qu'il raconte.
Nicolas Sarkozy sera jugé pour corruption du 5 au 22 octobre prochain dans l'affaire dite des écoutes autour de l'affaire Bettencourt.
Merci à vous Sophie Delpont. Cette information, avant de vous livrer quelques mots de la météo de demain, l'Espagne prend des mesures drastiques compte tenu de l'étendue de la propagation de la contagion galopante du coronavirus. Fermeture des discothèques, interdiction de fumer dans la rue. Horaire restreint pour les bars et restaurants. Le temps de demain dimanche pour la France métropolitaine. Un temps au nord humide, des nuages à l'ouest et du soleil. Sur le reste du pays, ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau, à la technique Élise Leu.